Maître et serviteur, suite. Parvenu au bord du traîneau, Vassili Andreïtch empoigna le rebord et resta ainsi quelque temps debout, essayant de reprendre souffle et de se calmer. Nikita n'était plus à son ancienne place, mais Vassili Andreïtch aperçut dans le traîneau une sorte de tas recouvert de neige et il devina que c'était Nikita. La terreur de Vassili Andreïtch s'était complètement dissipée et s'il craignait encore quelque chose, c'était précisément le retour de cette peur atroce qui s'était emparée de lui lorsqu'il errait à cheval et surtout au moment où il se trouva seul, abandonné dans la neige. Il fallait par tous les moyens empêcher cette peur de renaître. Et pour l'écarter, il était nécessaire d'agir, de s'occuper à quelques besognes. La première chose qu'il fit donc fut de se placer le dos au vent et de défaire sa pelisse. Ensuite, aussitôt qu'il eut repris souffle, il enleva ses bottes et les secoua afin de se débarrasser de la neige qui s'était introduite. Il fit de même pour son gant gauche. Quant au gant droit, il était irrémédiablement perdu, enseveli déjà sous la neige. Puis il défit sa ceinture, la resserra et la renoua de nouveau très bas, comme il avait l'habitude de le faire lorsqu'il sortait de sa boutique pour examiner le blé que les paysans venaient lui vendre. Lorsqu'il fut ainsi prêt à agir, la première besogne qui se présenta à lui fut de libérer la jambe du cheval. C'est ce que fit Vassili Andreïtch. Puis il attacha de nouveau le bai au devant du traîneau, au même endroit qu'auparavant, et voulut passer derrière le cheval pour remettre en place la valoire, la sellette et le balin. Mais au même moment, il vit que quelque chose remuait dans le traîneau. La tête de Nikita se dressa de dessous la couche de neige qui le recouvrait. Avec un effort visible, Nikita, que le froid avait déjà saisi, se souleva, s'assit et se mit à agiter étrangement sa main devant son nez, comme s'il chassait des mouches. Il agitait sa main et disait quelque chose. Vassili Andreïtch comprit qu'il l'appelait. Abandonnant alors le balin dont il était en train de recouvrir le cheval, Vassili Andreïtch s'approcha du traîneau. « Qu'as-tu ? » demanda-t-il à Nikita. « Que dis-tu ? » ?»« Voilà, je meurs !» prononça avec difficulté, d'une voix saccadée, « Nikita, ce que tu me dois dans le au gars ou à ma femme, n'importe. »« Quoi ? Tu es congelé ?» demanda Vassili Andreïtch. « Je le sens, c'est la mort. Pardonne au nom du Christ, » dit Nikita d'une voix pleurante en continuant d'agiter ses mains devant son visage comme s'il chassait des mouches. Vassili Andreïtch resta quelques secondes immobile et silencieux, puis brusquement de ce même air décidé qu'il prenait pour frapper dans la main d'un client concluant une affaire avantageuse, il recula d'un pas, releva les manches de sa pelisse et se mit à rejeter des deux mains la neige qui recouvrait Nikita et le traîneau. Ayant rejeté la neige, Vassili Andreïtch défit sa pelisse et poussa Nikita au fond du traîneau. Il s'étendit sur lui, le recouvrant aussi de sa pelisse, de son corps brûlant. Ayant glissé les pans de la pelisse entre les parois du traîneau et Vassili Andreïtch, tout en les maintenant sur ses genoux, resta couché sur le ventre, la tête appuyée contre le devant du traîneau. Il n'entendait plus maintenant ni les mouvements du cheval, ni les sifflements de la tempête, mais tendait seulement l'oreille au souffle de Nikita. Nikita demeura d'abord quelque temps immobile, puis il soupira et bougea légèrement. « Voilà ce que c'est. Et toi, tu disais, je meurs. » « Reste bien tranquille, réchauffe-toi, nous autres, c'est comme ça. » Mais, à son grand étonnement, Vassili Andreïtch ne put continuer car ses yeux se remplirent de larmes et sa mâchoire inférieure se mit à trembler convulsivement. Il cessa de parler, s'efforçant de ravaler ce qui lui montait à la gorge. « J'ai eu trop peur, songea-t-il, je suis trop affaibli, cependant. » Non seulement cette faiblesse ne lui était pas désagréable, mais elle lui faisait éprouver au contraire une joie singulière qu'il n'avait jamais encore connue. « Nous autres, c'est comme ça », se disait-il, se laissant aller à une sorte d'attendrissement solennel très particulier. Il resta ainsi étendu, en silence assez longtemps, essuyant ses yeux à la fourrure de la pelisse et serrant de son genou droit le pan de cette pelisse que le vent s'efforçait de lui arracher. Mais le désir de faire part à quelqu'un de sa joie s'empara de lui avec une force telle qu'il dit « Nikita, c'est bon, j'ai chaud », répondit la voix de Nikita, de dessous Vassili Andreïtch. « Oui, frère, c'est comme ça. J'ai failli périr. Tu serais mort de froid et moi aussi. » Mais ses mâchoires se mirent de nouveau à trembler et ses yeux se remplirent encore de larmes. Il ne put continuer. « Ce n'est rien », songea-t-il. « Je sais bien ce que je sais. » Il se tut. Il resta longtemps ainsi, la tiédeur du corps de Nikita étendue sous lui et la pelisse qui recouvrait son dos le pénétrait de chaleur. Cependant, les mains de Vassili Andreïtch, qui retenaient les pans de la pelisse, et ses pieds que le vent découvrait sans cesse, commençaient à se refroidir. Il avait surtout froid à la main droite qui était nue, mais il ne pensait ni à ses pieds ni à ses mains. Il ne pensait qu'à réchauffer l'homme qui était couché sous lui. Il jeta plusieurs fois un coup d'œil sur le cheval et vit que le dos de la bête était découvert, le vent ayant jeté à bas le balin et la valoir. Il se dit qu'il aurait fallu se lever et recouvrir le cheval, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner, ne fût-ce que pour un moment, Nikita et à troubler cette joie qui était en lui. Il n'éprouvait maintenant nulle terreur. Rien à craindre, il n'y échappera pas, se disait-il en songeant à la façon dont il réchauffait Nikita, avec le même sentiment de satisfaction qu'il éprouvait à vanter ses achats et ses ventes. Ce fut le lendemain seulement à l'heure du dîner que les paysans déterrèrent Vassili Andreïtch et Nikita à 30 sagènes de distance de la route et à une demi-versette du village. La neige avait complètement recouvert le traîneau, mais les brancards avec le mouchoir se voyaient encore. Le bai, à mi-vent dans la neige, la valoir et le balin de travers se tenaient debout, tout blanc, sa tête décharnée rentrée dans ses épaules, ses naseaux étaient remplis de glace, ainsi que ses yeux comme baignés de larmes gelées. Il avait à tel point maigri en une nuit qu'il ne lui restait plus que les os et la peau. Le corps de Vassili Andreïtch était aussi rigide qu'une pièce de viande congelée. Lorsqu'on souleva ce corps, il demeura les jambes largement écartelées, telles qu'il s'était étendu sur Nikita. Ses yeux d'épervier, ronds et saillants, étaient gelés, et sa bouche, sous ses moustaches taillées en brosse, était bourrée de neige. Nikita, lui, vivait encore, bien que son corps fut gelé par places. Lorsqu'on le réveilla, il s'imagina qu'il était déjà mort et que ce qui lui arrivait se passait dans l'autre monde. Quand il entendit les cris des paysans qui déblayaient le traîneau et soulevaient le corps de Vassili Andreïtch, il fut tout étonné au premier instant qu'il y eût des corps dans l'autre monde et que l'on s'y disputa comme dans celui-ci. Mais quand il comprit qu'il était encore sur la terre, il en fut plutôt peiné que content, surtout quand il sentit que ses doigts de pied étaient gelés. Nikita passa 2 mois à l'hôpital, on lui enleva 3 doigts, les autres guérirent et il put se remettre au travail. Il vécut encore 20 ans, travaillant d'abord comme valet de ferme, plus tard devenu vieux, il fut veilleur de nuit Il est mort cette année seulement, chez lui, à la maison, ainsi qu'il le désirait, sous les icônes, un cierge allumé entre les mains. Avant de mourir, il demanda pardon à sa vieille. Il dit adieu à son garçon et à ses petits-enfants. Et il mourut, sincèrement heureux de délivrer ainsi son fils et sa bru d'une bouche inutile et de quitter définitivement cette vie dont il avait assez pour une autre vie qui, à mesure que les années s'écoulaient, lui apparaissait plus compréhensible, plus attirante. Est-il mieux ou moins bien dans ce monde où il s'est réveillé après sa mort définitive? A-t-il éprouvé une déception? Ou bien a-t-il trouvé là-bas précisément ce qu'il attendait et espérait? Nous le saurons tous bientôt. C'était des extraits de la nouvelle Maître et serviteur de Tolstoï. Jamel Ritani.
Djabrinienne. C'est à Istanbul qu'elle m'est apparue pour la première fois dans sa fulgurance, à Oman, que j'ai passé du temps en tête à tête avec elle et qu'un courant s'est établi entre nous et enfin dans la forteresse de Djabrin que notre union s'est accomplie. Mais avant d'aller plus loin, il convient de s'arrêter à cette vérité qu'il m'a été maintes fois donné de vérifier. Les événements que nous anticipons se réalisent quelquefois d'une manière qui ne nous serait jamais venue à l'esprit. Peut-être la mort est-elle l'illustration la plus éclatante de ce phénomène, puisqu'elle survient inopinément, même quand nous y avons été préparés par la guerre ou la spirale de la maladie. Impossible de prévoir l'instant où elle s'accomplira. Seuls quelques élus sont capables de détecter sa venue, car ils ont reçu le pouvoir d'entendre son pas qui s'avance et de se placer à son unisson. Et même, parmi ces derniers, rares ceux qui peuvent en prévoir l'heure avec précision. Quant à mon état, il n'est guère enviable. Il faut dire que j'apparais toujours ombrageux à ceux qui ne me connaissent pas, qui ne se doutent pas à quel point je suis en lutte avec moi-même. Bien souvent, la nuit, des idées poisseuses me harcèlent. Je pressens l'issue fatale, persuadée que je ne reverrai plus le soleil. Toutefois, ce que j'avais redouté ne survient pas. J'ai beau savoir l'impénétrabilité de l'instant ultime, le fait d'ignorer quelle forme il prendra m'inflige une souffrance qui me poursuit inlassablement, au point que j'ai l'impression d'être entrée en dépérissement du jour où je suis née. Tant ce que nous désirons, que ce que nous redoutions, survient toujours au moment où nous nous y attendons le moins. Ce matin-là, alors qu'il régnait une chaleur caniculaire, j'étais sortie de l'hôtel en compagnie d'un ami très cher, originaire de Mascate, Ahmed Falahi. Je l'avais connu durant son séjour au Maroc, au Caire, pardon, où il avait résidé de nombreuses années. Même si nous ne nous voyons que de loin en loin, notre amitié était telle qu'au premier jour, et il suffisait que nous nous rencontrions après une interruption de plusieurs années pour reprendre notre conversation là où nous l'avions interrompue, comme si nous nous étions seulement quittés la veille. Nous sommes passés par Nozwa, effectuant une halte dans ses souks et son château. Mon ami s'est lamenté sur l'assèchement des canaux, beaucoup de palmiers avaient péri et la végétation était rare. Mais nous nous sommes promenés du côté de la citadelle de la Dida. Je me suis arrêtée pour prêter attention au silence qui régnait dans les patios, où l'infini était domestiqué et où les murailles n'empêchaient pas le visiteur de se sentir à découvert, exposé, sur une aire sans limite. Enfin, nous avons atteint Djabrin. À mesure que nous en approchions, il nous apparaissait de plus en plus clairement que jusque-là nous n'avions fait que traverser des étapes et franchir des degrés destinés à nous conduire à cette forteresse de couleur rose. Depuis que nous avions pénétré dans la zone, un pincement proche de l'excitation s'était emparé de moi. Quelques maisons disséminées, modestes, de rares arbres, principalement des palmiers, certains lieux me procurent le sentiment d'aborder un commencement, d'autres de m'acheminer vers un achèvement. Visiblement, cet endroit était un point de départ. Il commandait l'ouverture sur l'immensité cosmique, un horizon solidement installé, paisible, proche et lointain à la fois, au milieu duquel se dressait l'édifice. Vu d'une certaine distance, celui-ci paraissait circulaire, massif. Mais quand on s'en approchait, il prenait un aspect plus carré, voire rectangulaire, une forme tour à tour ramassée, dispersée. Quand le visiteur venant du lointain s'arrêtait pour l'observer, il le voyait à l'image de son désir, rectangulaire ou circulaire, pourvu de murailles qui tantôt n'offraient aucune prise, tantôt étaient percées de meurtrières. Quant à moi, j'étais plein d'expectatives. Une porte ouvrant sur le péristyle. La franchir, c'est passer d'une configuration à une autre, d'un temps à un autre, différent et même d'un univers à un autre. Cette porte étroite ne laisse rien soupçonner de ce qu'il y a derrière. On ne peut la franchir debout, il faut se courber entièrement. L'entrée donc n'est permise qu'à celui qui s'est préalablement incliné. Le silence est silence, qu'on peut l'entendre, une sorte de bourdonnement qui se voit à l'œil nu. Sur la droite, en bordure, une prison. C'est la première chose qu'on découvre en entrant et la dernière qu'on verra en sortant. Ensuite, le grenier à dattes, à l'intérieur des planches de bois espacées, permettant au miel de s'écouler lentement jusqu'à des récipients de grès. Nous abordons un escalier jusqu'à... des récipients de grès. Nous abordons un escalier en pente douce qui invite à monter, à s'engager plus avant. Le premier étage accueille l'aile des femmes. Son plancher coïncide avec le plafond de la prison située juste au-dessous. Je crois capter les désirs frustrés, les rébellions réprimées, les rêves lugubres. Je laisse mon regard dériver tout en prêtant l'oreille à ce qui a subsisté. J'ignore quels dialogues se sont noués ici, quelles phrases ont été prononcées. La voix de mon ami Ahmed me sort de mes pensées. Il t'arrive quelque chose ? Je réponds par la négative. De nouveau, il m'interroge. Tu es fatigué ? Non, vraiment, je n'ai rien. Cependant, je le sens qui traîne délibérément pour me laisser m'isoler avec moi-même. Il ne me parle que de loin en loin. Un moment plus tard, je m'aperçois soudain que je suis seule. Il doit m'attendre quelque part, mais nous ne serons réunis qu'à la fin. À l'issue d'un parcours déterminé, imposé, planifié. Un étroit corridor d'où l'on aperçoit le début d'un escalier aux nombreuses marches, sa pente abrupte et calculée pour que le grimpeur, déjà engagé, ne puisse en voir la fin, comme s'il ne débouchait sur rien. Du moins, est-ce l'impression que j'en ai retirée ? La même que j'avais déjà éprouvée dans l'aile des femmes. Chacune des sections semble constituer à elle seule la totalité du lieu et n'ouvrir sur aucune autre. Une voûte de pierre surmonte l'escalier. Chez moi, les arcades occupent une place particulière et j'ai maints souvenirs d'expériences vécues dans leur ombre, le plus emblématique étant celle de la grande mosquée de Cordoue. J'ai une prédilection pour la forme coupe. C'est à mon sens la représentation la plus exacte et la plus fidèle du parcours de la vie. Même les lignes droites finissent par s'infléchir à un moment ou à un autre. Pour qu'un chemin arrive à son terme, il lui faut s'incurver. La rectitude n'est qu'une illusion puisque la terre est ronde et que l'univers lui-même est sphérique. Au-dessus de l'arcade, une inscription en vert. Je m'arrête, entreprenant de les déchiffrer puis de les recopier. Arrivé ici, n'y avons fait halte que brièvement. Ainsi va la vie. À peine s'est-on installé qu'il faut repartir. Nous aurions aimé y séjourner plus longuement. L'humain, hélas, n'a pas dans le monde de durable avenir. Le 31 du mois de Muharram 1139 de l'Hégire. Ainsi donc, l'inscription remontait à plus de 3 siècles. Celui qui avait composé ces vers était décédé. Celui qui les avait gravés dans la pierre n'était plus. Et celui qui les lisait à présent était appelé à les rejoindre. J'ai lu la suite. Il me faut viser l'aspiration la plus grandiose. Tirer un trait sur mes prouesses d'antan. Me colter à l'essence des choses. La mort, tantôt derrière moi, tantôt devant. En haut de l'escalier, un palmier commande l'entrée d'une petite salle de prière, puis une porte discrète entrebâillée donne accès à une vaste salle qui, au premier abord, paraît condamnée, mais cette impression est démentie par la lumière franche qui règne ici. Aiguisant mon regard, je distingue 2 fenêtres, puis 2 portes, ouvertures qui ne se dévoilent aux visiteurs que s'il en ressent le besoin. Mon intuition de tantôt se confirme. Chaque section de l'édifice apparaît comme l'objectif absolu, ultime, qui ne sera suivi d'aucun autre, du moins pas avant qu'on atteigne l'instant approprié, le lieu idoine. Peut-être le nouvel horizon surgira-t-il à l'occasion de quelques mouvements, de quelques regards, de l'éruption d'une idée passagère, une fois que le souffle aura adopté un rythme particulier, aussi bien dans l'inspiration que dans l'expiration, une fois que le cœur se sera mis à battre d'une certaine façon. Je me demande, de combien de battements le cœur est-il secoué, depuis la première pulsation jusqu'au spasme utile ? Est-il possible de les recenser en tenant compte des phases de ralentissement et d'accélération, particulièrement celles qui surviennent sous l'effet de la passion? À chaque respiration, c'est une perspective nouvelle qui s'ouvre, comme si chaque étape apportait avec elle l'étape suivante, comme si chaque lieu se présentait flanqué de son époque. Ici, chaque pièce née de la précédente. Le corridor est issu d'un corridor et l'escalier débouche sur un escalier. On peut circuler de l'un à l'autre indéfiniment, du moins, tant qu'on n'a pas atteint une certaine limite, impossible à prévoir à l'avance. Plus étonnant, certains emplacements se matérialisent sitôt qu'un esprit vient à les envisager et disparaissent dès lors que l'image qu'on s'en est fait se délite. Les surfaces ne varient-elles pas en fonction directe de l'humeur de celui qui les a imaginées? Pour peu que celui-ci soit accablé et en proie au chagrin, les plafonds s'abaissent et les murs se contractent. Au contraire, s'il est euphorique et réjoui, alors les salles s'agrandissent et certaines paraissent plus vastes qu'une esplanade. Malgré la joie que j'éprouvais et mon émerveillement à la découverte de toute cette singularité, une certaine inquiétude s'est fait jour en moi. J'étais désormais désireux d'explorer plus avant, de découvrir d'autres pièces, d'autres salles dans le prolongement des premières. Ainsi s'édifierait ce que j'avais imaginé. Dans le même temps, je me demandais, parviendrai-je jamais à sortir d'ici? Où allais-je retrouver mon ami Ahmed? Nul doute que les visiteurs qui m'avaient précédé ici étaient venus armés d'idées préconçues, d'une représentation arrêtée. Il s'attendait à trouver un nombre donné de pièces, de salles, d'étages, s'appuyant sur des descriptions précédentes qu'il leur était impossible d'ignorer, mais ce que j'avais découvert, moi, et qui avait confirmé mon intuition, personne, avant moi, n'en avait eu la révélation. Je repense à l'expression de mon compagnon. Avait-il pressenti les choses depuis le début, depuis le moment où je m'étais tenue sur les premières marches? Est-ce pour cela qu'il s'était attardé pour me laisser avancer seul? Si oui, pourquoi ne m'en a-t-il pas fait part? Il est vrai qu'il n'a cessé de me fixer avec perplexité. Je revois sa silhouette mince, son air paisible, avec sa barbe et ses yeux pénétrants. Comment ai-je pu ne pas prêter attention à son regard égaré dans le lointain, Comment ai-je pu ne pas m'en alarmer? Je ralentis le pas. Combien de temps s'est écoulé? La montre que j'ai au poignet m'informe qu'une ou deux heures ont passé depuis que j'ai pénétré ici. Mais je pourrais tout aussi bien être arrivé la veille, le mois dernier, 2 ans plus tôt, voire il y a de cela des années. Le temps ici s'égrène selon un rythme particulier. Sinon, pourquoi serais-je convaincu d'avoir brutalement vieilli depuis mon entrée, d'avoir traversé plus d'étapes que je n'en avais traversées depuis ma naissance? Il s'est produit tant d'événements en un court laps de temps. Ce sentiment, il me sera donné de l'éprouver une seule fois par la suite, et ce d'une manière bien plus éclatante et probante. J'avance lentement, absorbant tout le spectacle qui s'offre à moi. Des visions et des étrangetés qui ne se dévoilent qu'à celui qui est en possession de tous ses moyens et disposé à en accepter la survenance. Mais qui a décidé de cela? Qui opère la sélection, faisant en sorte que tel ne percevra de l'édifice que ses murs, ses salles, ses corridors et ses sinuosités, lorsque tel autre pourra le modeler en fonction de la représentation préalable qu'il en avait et le verra ainsi à l'exact reflet de son imagination? Au fond, je n'en sais rien. Je ne parviens pas à puiser en moi-même de réponses satisfaisantes, pas plus que je n'en ai trouvé chez mon ami Romané. Les Romanés, je les ai connus tantôt de loin, tantôt en nouant avec eux de solides amitiés, comme je l'ai fait avec Fallahi et avant lui avec Raji. Soudain, 4 fenêtres surgissent devant moi, chacune d'elles orientée selon l'une des directions cardinales. Il y a environ 4 siècles, l'imam Belarab ibn Soldani Yaroubi s'est tenu ici pour scruter le lointain. Sans se laisser arrêter par les obstacles placés sur sa route, ni par la dense végétation de l'oasis adjacente, ni par les collines environnantes, son regard a réussi à atteindre les rives des fleuves impétueux, les lacs immenses, les océans sans limite, à percevoir les lignes de démarcation entre la terre ferme et les eaux, entre le contingent et l'infini, entre la réalité tangible et les chimères inaccessibles, comble du paradoxe. À mon tour, je plisse les yeux, tentant de capter l'image qui s'est jadis reflétée dans les prunelles de l'imam, tout en prêtant l'oreille au souffle des visiteurs qui m'ont précédé. J'atteins la salle de l'exaucement. La pièce, vaste et rectangulaire, ne peut accueillir qu'une seule personne en position assise. Encore celle-ci doit-elle garder le silence, se consacrer à la méditation, à la contemplation ou à l'introspection. Pour peu que son occupant quitte cet état, la pièce disparaît. Je ne saurais dire combien de temps j'y suis restée. Je n'avais jamais vu, au cours de mes multiples pérégrinations, un endroit qui procura une telle sensation d'isolement. Cette salle me confrontait au sentiment d'un éloignement intense, d'une fracture accablante. Je n'avais jamais connu cette communion avec le silence, pas même au temps de mon incarcération au pénitencier de la citadelle, quand j'étais entièrement coupée du monde. Ici, tous les liens étaient rompus, au point que même les souvenirs cessaient d'affluer à la mémoire et que le moindre écho se délitait. On passe une porte, puis une autre, mais jamais on ne débouche sur la sortie. Aucun niveau ne ressemble à l'autre. Chaque pan de l'édifice constitue un étage à part entière. Quand bien même il se situerait sur le même plan qu'un autre, chaque fois qu'on change de pièce, de corridor, de section, on trouve les dimensions et les angles changés. Comme si le nouvel espace procédait d'un style architectural différent du précédent, pourtant séparé de lui par une simple cloison. Après la salle de l'exaucement vint la salle de la négociation. L'imam Belarab y rencontrait les personnes désireuses de se concerter avec lui, de recueillir ses conseils ou de négocier quelque traité. Il n'y venait jamais seul, même si ses visiteurs ne voyaient que lui. En fait, la pièce était entourée d'une tranchée dans laquelle se tenaient à l'affût des gardes terrifiants, entraînés à surgir brutalement de trappes dissimulées sous les tapis persans. Il n'intervenait jamais sans avoir entendu un certain signal. Mais une fois que celui-ci avait été donné, il n'y avait au plus aucun moyen de le retenir. J'ignore comment j'ai finalement atteint la salle du soleil et de la lune. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas dans le prolongement des salles précédentes. Une enfilade de pièces qu'il m'a fallu franchir d'un pas vif. On était même par moments obligés de courir, et elles étaient si nombreuses qu'il était difficile après coup de se remémorer leur configuration et leur succession. En pénétrant ici, le nouvel arrivant n'a d'autre choix que d'attacher son regard aux larges baies vitrées, richement ornées de vitraux enchâssés dans un gypse. D'une blancheur éclatante, il y a deux baies composées, chacune de sept fenêtres, à la fois reliées entre elles et indépendantes. Sept pour le soleil, sept fenêtres pour la lune. Les rayons solaires, d'un jaune éclatant, ne peuvent aussi intenses soient-ils traverser les fenêtres de lune. De même, la lueur bleuâtre de la lune ne saurait franchir les fenêtres dédiées au soleil. Seul le fugace rayonnement des étoiles est capable de les percer toutes. Même ainsi filtré, il reste suffisamment concentré pour permettre, y compris par les nuits sans lune, la lecture d'un livre imprimé en petits caractères. Mais ce n'est pas tout. Le ciel est si clairement visible à travers les fenêtres qu'il semble révéler subitement une partie de son contenu caché. Il gran our chigul hal mitzelit auret hogan onitz gadi serti khorekit auret ave hogan onitz gadi serti Orkita.
C'était Oxymore. Rendez-vous la semaine prochaine et j'espère que nous aurons le temps de vous présenter la nouvelle d'Anwar Ben Malek, Eve. Dur siektanitsu